Alors, ce matin, nous allons lire un texte dans l'évangile de Marc. Marc, chapitre 16. Tout le chapitre. Marc 16, il s'agit du dernier message dans notre série de l'évangile de Marc. Nous l'avons commencé au mois de janvier et c'est le dernier message et on a consacré un dimanche par chapitre ou un chapitre par dimanche. Et nous avons fait ces messages avec une équipe, je crois, de 7 prédicateurs différents. 2 de l'extérieur, Seb Brandt de Grenoble, Jean-Jacques Rioux de Villefranche, et 5 de l'intérieur, Christian, François, JL, Sam et moi-même. J'espère ne pas oublier un frère qui a pris la parole. Alors, ce dernier chapitre est le chapitre le plus court de l'évangile de Marc, mais c'est un chapitre qui est un peu controversé. Alors, je le dis tout simplement pourquoi. Vous allez voir, peut-être dans votre Bible, à partir du verset 9 jusqu'à la fin, c'est en italique, ou alors c'est entre parenthèses. Alors, la raison est tout simplement parce que ces derniers versets manquent dans certains manuscrits. Alors, vous savez certainement que notre Bible est basée sur des manuscrits, les plus célèbres, plus ou moins, sont les manuscrits de la Mer Morte, découverts dans les années 1940 et 50. Eh bien, certains manuscrits ne contiennent pas ces derniers versets. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses, mais bien que ces versets ne se trouvent pas dans certains manuscrits, étant donné qu'il n'y a rien de non-biblique, il n'y a rien d'anti-biblique dans ces derniers versets, nous allons lire tout ce chapitre, du verset 1 au verset 20. Donc, mon message sera basé sur tout ce chapitre. Alors, je commence la lecture. Et vous allez voir que mon message va se résumer en 4 paroles. Obstacle, peur, honte, incrédulité. Ces 4 mots résument ce chapitre. Je lis à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le tombeau, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du tombeau, et s'enfuirent tremblantes et hors d'elles-mêmes, mais elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et qui se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Voilà, 20 versets, et le premier mot qui résume ce texte, c'est le mot « obstacle ». D'emblée, nous rencontrons dans ce texte Marie et Salomé, trois femmes, qui vont au tombeau pour continuer le processus de l'embaumement du corps du Seigneur Jésus. Marie Madeleine, on connaît, on en parle de temps en temps dans les évangiles. L'autre Marie, elle est aussi la maman d'un certain Jacques. Et ailleurs, nous lisons qu'elle avait un autre fils qui s'appelait Joseph. Et puis il y a Salomé. Bien sûr, à ne pas confondre avec Salomé qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. C'est un autre Salomé. Mais vous allez constater que dans le Nouveau Testament, il y a pas mal de Marie, pas mal de Jacques, pas mal de Joseph. Il y a de quoi perdre le nord parfois avec tous ces prénoms. Mais en tout cas, ces femmes-là étaient à la crucifixion. Elles étaient courageuses d'être à la crucifixion. Et il y avait d'autres femmes avec elles à la crucifixion. Une certaine Jeanne et son mari étaient un haut fonctionnaire dans la cour du roi Hérode. Et sans doute une autre femme qui s'appelait Suzanne était là avec lors de la crucifixion. Donc, ces femmes-là viennent, Marie et Salomé, viennent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, mais elles savent qu'elles vont se heurter à un problème, un obstacle. Qui nous roulera la pierre? Les trois femmes savaient que pour elles, c'était impossible. Mais qui va nous rouler la pierre? Elles n'allaient pas demander aux soldats qui gardaient la tombe. Hein? Vous savez, les chefs religieux voulaient que des soldats romains gardent la tombe. Et Pilate et les autorités romaines ont dit, vous avez des soldats? Eh bien, envoyez-les pour garder la tombe. Donc, ce sont des soldats juifs qui gardent la tombe, mais ce n'est pas eux qui allaient donner un coup de main aux femmes. Elles avaient un obstacle, un grand obstacle. Cette pierre grosse est scellée et gardée. Mais bien sûr, quand ils arrivent, la pierre a déjà été déplacée. La pierre a été enlevée, roulée, le tombeau est ouvert. Et si vous vous demandez, mais où sont les soldats? Eh bien, à ce moment-là, ils étaient chez les chefs religieux en train de se faire acheter pour dire que les disciples étaient venus voler le corps de Jésus. Parfois, c'est de n'importe quoi. En tout cas, revenons à nos trois dames. Donc, elles viennent et le corps est parti. Mais surtout, la pierre a été roulée. Un obstacle de taille, et tout d'un coup, cet obstacle n'existe plus. D'où obstacle. Alors, où est-ce que je vais en venir? Eh bien, ce qui m'interpelle, c'est que ces femmes avaient un gros problème. Et ce problème a disparu. Il peut nous arriver dans la vie d'être devant des gros problèmes. D'être devant des obstacles de taille. Quel chrétien n'a jamais connu des contretemps? Des imprévus qui viennent bousculer leur programme. Je ne parle pas que de nous cette semaine. Mais quel chrétien n'a pas connu des contretemps? Quel chrétien ne connaît pas un obstacle, un problème de taille? Vous savez, dans la vie, il y a des problèmes, il y a des drames, il y a des catastrophes. Eh bien, on ne connaît pas tous des catastrophes, pas tous des drames, mais on connaît tous des problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos problèmes? Parce que, humainement parlant, avec certains problèmes, on ne peut rien. Mais, si nous sommes au Seigneur, nous savons, n'est-ce pas, qu'il est écrit, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ça veut dire que tous nos obstacles vont disparaître? Eh bien, cela veut dire que Dieu peut enlever tous nos obstacles, toutes nos difficultés, tous nos problèmes. Mais loin de moi de vous dire ce matin que Dieu va enlever tous vos obstacles, tous vos problèmes, toutes vos difficultés. Il y a des faux prophètes dans certaines églises, presque même évangéliques, qui disent des choses comme ça. Dieu va enlever tous les obstacles. Mais c'est faux. Parfois, Dieu enlève nos problèmes. Parfois, Dieu enlève nos obstacles. Parfois, Dieu les laisse. Pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons, certainement. Mais afin que nous puissions compter sur lui, afin que nous puissions nous confier en lui, mais aussi, parfois, la solution avec nos problèmes, c'est de vivre avec nos problèmes. Et Dieu nous donne sa grâce, son secours, son soutien, afin qu'on puisse vivre avec nos problèmes, nos obstacles. Même si c'est une grosse pierre que, humainement parlant, on ne peut pas déplacer. Parfois, Dieu déplace des pierres. Parfois, Dieu aplanit les montagnes. Parfois, Dieu les laisse. Et il nous donne la grâce de lui donner sa main et de marcher. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. Et quand on est devant des obstacles, c'est la seule chose qu'on puisse faire. Lui donner la main et dire, Seigneur, secours-moi, soutiens-moi. Ça, c'est le premier mot, obstacle. Ensuite, j'ai un deuxième mot, le mot peur. Peur. Ces femmes, elles avaient peur. Et encore, qui va être le premier à jeter une pierre? Qui ici n'a jamais eu peur? Elles avaient peur, non pas parce que le tombeau était vide, j'imagine qu'elles ont tremblé quand elles ont vu ça, mais parce qu'elles ont vu un jeune homme en blanc, certainement un ange, sous forme humaine, qui était là, qui leur parle. Ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur. Étant donné que le Seigneur peut enlever tout obstacle, le Seigneur peut enlever toute peur, mais il peut nous aider à gérer nos peurs ou à maîtriser nos peurs parfois. Certains parmi vous savent que j'ai, il y a 2 ou 3 ans, j'ai répertorié tous les versets bibliques qui contiennent la phrase « Ne vous épouvantez pas, ne crains pas, sois sans crainte ». Avec Mary, notre fille, on a calculé qu'il y a, au dernier comptage, hein, 131 fois dans la Bible, nous lisons « Ne vous épouvantez pas, n'ayez pas peur ». 100 fois dans l'Ancien Testament, et si vous êtes fort en calcul, 131 moins 100, ça fait 31 fois dans le Nouveau Testament. Je peux vous envoyer les références bibliques si vous le désirez. Mais ici, elles avaient peur. C'était tout à fait normal. Et la parole qui vient, c'est « N'aie pas peur. Ne vous épouvantez pas. » D'ailleurs, la première fois qu'on lit dans la Bible « Ne crains pas », c'est Genèse 15, verset 1, lorsque Dieu parle à Abraham. « Ne crains pas. » La dernière fois qu'on lit cette phrase dans la Bible, c'est lorsque Jésus écrit à l'église de Smyrne, en Asie mineure, dans Apocalypse 2, verset 10, et il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Un verset très à propos pour beaucoup de nos frères et sœurs aujourd'hui même. « Ne crains pas ce que vous allez souffrir. » Eh bien, parfois, j'ai besoin de relire ces exhortations quand j'ai peur. Parfois, j'ai besoin de relire ces versets. Et pas seulement de les relire, mais d'y faire confiance. Et de dire, mais Seigneur, dans mes craintes, tu me dis, ne crains pas. N'aie pas peur. Ne t'épouvante pas. Ne tremble pas comme une feuille, David. Et parfois, on tremble comme une feuille. Et on a besoin, pas seulement de relire ces exhortations, mais de croire à ces exhortations. Je vous encourage vivement à faire pareil. Relire, c'est « N'aie pas peur, ne crains pas. » Et Dieu peut vous encourager. Et Dieu peut vous aider à gérer la peur ou à chasser la peur. Et quand on dit « ne crains pas », eh bien le Seigneur nous invite à ne pas faire confiance à notre intelligence, mais il nous invite à faire confiance à son immense sagesse et à sa grande puissance. Ne te confie pas sur ton intelligence, dit Proverbe 3, mais confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel. Peur, on l'a dans ce texte, et on l'a bien souvent dans notre vie et dans notre cœur. Troisièmement, le mot honte. Alors, où est-ce que je vois la honte dans ce texte? Dans les propos de cet ange aux femmes, il leur dit, verset 7, « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. » Allez dire aux disciples de Jésus et à Pierre que Jésus est vivant. Alors, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que l'ange a donné, pourquoi est-ce qu'il a fait une mention spéciale pour Pierre? Ne fait-il pas partie des disciples? Pourquoi un message personnel pour Pierre, des 11 disciples qui est resté? Pourquoi dit aux disciples et aux Pierre? Il aurait pu dire, mais dis aux disciples et à Thomas, ou dis aux disciples et à Jacques et Jean, ou dis aux disciples et à Barthélemy, dis aux disciples et à Matthieu, et ainsi de suite. Mais dis aux disciples et à Pierre. Eh bien, je peux vous dire que je suis vraiment, vraiment reconnaissant qu'on a cette petite phrase dans la Bible. Dis aux disciples et à Pierre. Pierre venait de le renier. Quelques heures auparavant, pas 72 heures, 3 jours auparavant, il venait de renier son maître bien-aimé. Il a blasphémé, il a menti, il a raconté des mensonges gros comme une maison. Il a même été absent lors de la crucifixion, comme presque tous les disciples d'ailleurs. J'imagine que Pierre avait le moral dans les chaussettes, l'estime de soi à moins 50. Sa tête, son cœur rempli de doutes. Est-ce que Jésus va m'en vouloir? Est-ce qu'il pourra me pardonner un jour pour ce que j'ai fait, à cause de ce que j'ai dit? Est-ce que Dieu va me rejeter pour de bon, pour toujours, pour l'éternité? Est-ce que des questions comme celles-là ont trotté dans la tête de Pierre? Eh bien, heureusement, Pierre a été pardonné. Pierre a été rétabli. Pierre a été mandaté de nouveau par le maître, malgré ses péchés, malgré ses bêtises, malgré ses mensonges, malgré sa honte, sa peur. Il a été rétabli. Et dans ce mini-message adressé à l'apôtre Pierre, je vois un message subliminal pour nous tous, mais on peut dire un message puissant pour nous tous. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons pensé, quoi que nous ayons dit depuis notre conversion, le pardon est possible. Le rétablissement est possible. Un nouveau départ est possible, à condition que nous venions au pied de la croix et que nous confessions nos péchés et que nous nous en détournions. Isaac était un jeune homme qui s'est converti quand il était garçon. Il était célibataire et il a fait une bêtise. Il s'est marié avec une non-chrétienne qui ne voulait rien savoir de l'Église. Et Isaac, qui était prédicateur dans son Église, s'est marié avec cette charmante jeune fille, non-chrétienne. Il a arrêté d'aller à l'Église. Il a arrêté de prêcher. Pendant 50 ans, il n'a pas mis ses pieds dans une église évangélique. Après 50 ans dans le désert, les chrétiens dans sa ville ont organisé une réunion d'évangélisation pour des personnes âgées, parce qu'à l'époque, il avait 75 ans. Et sa femme avait envie d'y aller, parce qu'il y avait une tasse de thé, quelques gâteaux et tout le reste. Donc, ils sont allés tous les deux, lui un peu à reculons. Mais dans son cœur, quelque chose lui disait, vas-y, vas-y. Eh bien, à cette rencontre, à la fin de la rencontre, Isaac a demandé de parler avec un ancien. Et il a raconté sa vie. Pendant qu'il confessait ses bêtises à cet ancien, son épouse était dans une autre pièce en train de se convertir avec des femmes de l'Église. Donc lui, il est revenu au Seigneur. Elle s'est convertie, 75, 76 ans. Et Isaac, je lui ai souvent rendu visite dans les dernières années de sa vie. Et il n'arrêtait pas de me dire, mais David, je m'étonne de la grâce de Dieu. 50 ans, j'ai vécu comme un païen. Mais Dieu est allé me chercher. Dieu m'a rétabli. Dieu est venu me repêcher de ce monde que j'avais choisi. Pour Isaac, d'ailleurs, quand il priait au culte, je peux vous dire que chaque mot pesait, valait de l'or, parce qu'il savait de quoi il parlait quand il priait. Il est décédé maintenant, et son épouse aussi. Mais je veux dire que cet ange dit, « Dis à Pierre, Jésus est ressuscité. Dis à Isaac, Jésus est ressuscité. Dis à tout chrétien, quoi que nous ayons fait, quoi que nous ayons dit ou pensé, le pardon, le rétablissement, le renouveau est possible à condition que nous venions au pied de la croix. » Il y a un verset qui s'affiche. « Celui qui dissimule ses péchés ne prospérera point. Tandis que, j'ajoute, tandis que, celui qui les confesse et qui les délaisse, c'est une chose de confesser, c'est autre chose de délaisser et de renoncer à. Celui qui confesse et qui délaisse trouvera compassion, miséricorde, grâce, pardon. La honte peut disparaître grâce au Seigneur Jésus. Le dernier mot, c'est le mot incrédulité. Incrédulité. Au verset 11, il est écrit que Marie vient leur dire Jésus vivant, et il est écrit, mais les disciples ne la crurent pas. Verset 13, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, c'est un lien avec Luc 24, ils reviennent, ils disent aux disciples, Jésus est vivant. Ils ne les crurent pas non plus. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils croient, ces gens-là? Que des témoins oculaires, que des témoins vivants, mais ils ne croient pas. Et il est écrit au verset 14, Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourtant, ils étaient croyants. Mais des croyants incrédules. Ils aimaient le Seigneur, mais leur cœur était dur. Est-ce qu'il s'agit des contradictions? Ou est-ce que parfois, nous sommes pareils? On est des croyants. On est des chrétiens. On se vante d'être évangélique. Et parfois, on est incrédule. On dit, on aime le Seigneur. On veut le suivre. Mais parfois, notre cœur est dur. Et Jésus leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Jésus voulait que ces disciples-là grandissent pas seulement en connaissance, mais aussi en confiance. Et il en est de même au XXIe siècle. Nous devons grandir en connaissance, certes, connaissance de la parole de Dieu, connaissance de Jésus-Christ, mais nous devons grandir aussi en confiance, avoir de plus en plus de confiance en Christ. Malgré tout ce qui peut nous rendre incrédules, malgré tout ce qui peut saper notre confiance, le Seigneur veut nous aider à croire en lui. En ce qui concerne les disciples, eh bien, on peut dire que le Seigneur Jésus a enlevé tout obstacle Il a enlevé toute crainte, il a enlevé toute honte, il a enlevé toute incrédulité. Parce que quand on lit le livre des Actes des Apôtres, mais ce n'est pas les mêmes disciples. Quoique, oui, si, c'est les mêmes bonhommes. Mais les obstacles, la honte, la peur, l'incrédulité avaient disparu. Et Jésus le dit ici d'ailleurs, quand il parle au verset 16 jusqu'au verset 20, quand Jésus dit « ce qui va accompagner ceux qui vont le suivre », eh bien, nous avons ici un résumé du livre des Actes des Apôtres. Ce que nous lisons ici, les miracles, les guérisons, les gens qui parlent des langues qu'ils n'avaient jamais apprises et qui évangélisent, on voit ça dans l'acte 2 et ailleurs, eh bien, nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres. Et cela confirme que Jésus peut enlever nos obstacles, nos peurs, nos moments de honte et nos moments d'incrédulité. Le Seigneur a agi de façon extraordinaire pendant le premier siècle. Et tous les historiens de l'Église sont d'accord pour dire qu'on n'a jamais vu de pareil depuis. Même dans les moments de grand réveil, où il y a conversion après conversion, des gens qui pleurent sur leur péché, mais on n'a jamais vu exactement la même chose que dans le livre des Actes. C'était un moment à part. Même si certains veulent nous convaincre du contraire, je me souviens des quelques années, il y avait un pasteur au Kenya qui a fait l'une des journaux parce qu'il disait qu'il avait le don de faire naître des bébés à des mamans stériles sans passer par une grossesse. Et il a prouvé. Des femmes stériles. Je donne des exemples de gens dans son église. Une femme qui vient dire, « S'il te plaît, frère, prie pour moi. On ne peut pas avoir d'enfant, mais on veut vraiment un enfant. » Et un beau jour, et je ne raconte pas n'importe quoi, un beau jour, cette femme se réveille et dans sa chambre, il y a un couffin avec un nouveau-né. Donc, quand ça s'est passé une fois, le pasteur a dit, « Mais c'est parce que moi, j'ai prié. Dieu m'a donné ce don. » Bon, ben d'accord. Hein. Et puis, une autre femme vient, « Mais frère, nous avons le même problème. Est-ce que vous pourriez prier pour nous ?» Bien sûr. Quelques semaines plus tard, cette femme se réveille dans sa chambre, un couffin et un nouveau-né. Ben, c'est pas possible. Donc, les gens entendent parler de ça. Ça fait la une des journaux, à la télévision. Les gens viennent de plusieurs villes du pays pour voir ce pasteur qui a ce don merveilleux. OK? Ça se reproduit des dizaines de fois. Jusqu'à ce que... C'est quoi le hic? Il y a des directeurs de maternité qui portent plainte pour vol de nouveau-nés. Donc, ce faiseur des miracles a été démasqué et il a avoué qu'il avait une équipe qui allait chercher voler par-ci, par-là, pas dans la même maternité, bien sûr, pour éviter tout soupçon, pour voler des nouveau-nés et puis pour les mettre dans des maisons des familles qui voulaient un bébé. Bon, vous comprenez la situation. C'est parfois du n'importe quoi au nom de Christ. Alors, restons simples, revenons à la simplicité et à la sincérité des textes bibliques et prions que le Seigneur nous aide avec nos difficultés, mais prions avec foi qu'il nous aide à surmonter nos difficultés. Dimanche dernier, j'ai fini avec cette histoire, nous avons mangé avec un monsieur en Angleterre qui s'appelle Steve. Il a passé 40 ans de sa vie dans le crime. Il a passé plusieurs années en prison pour vol, la main armée et autre chose. Et il se convertit l'année dernière. Il a mangé avec nous et d'autres personnes de l'église dimanche dernier. Et je lui ai posé quelques questions pour faire mes connaissances. Il a fait de même avec moi. C'était formidable de l'entendre parler du fait que son plus grand problème était de pardonner à ceux qu'il avait dénoncés pour qu'il aille en prison. De pardonner à ceux qui, il y a des années, avaient pris plus que leur part du butin quand ils ont volé. Et il nous a dit, mais Dieu m'a aidé il y a quelques semaines à pardonner à ces gens-là. Et je me suis dit, mais cet homme-là, il avait des gros obstacles. Il avait peur parce qu'il fallait qu'il dise à ses copains, c'est fini, je suis chrétien, je lis la Bible, je ne vole plus, je ne tape plus, je ne mens plus. La peur. Il avait honte de son passé. Et il avait un passé incrédule. Mais grâce à la lecture du Nouveau Testament, grâce à de la nourriture qui lui a été donnée gratuitement par une église évangélique dans sa ville, eh bien, ces obstacles sont partis. La peur est partie. La honte est partie. L'incrédulité est partie. Grâce au Seigneur Jésus. Alors, face à nos obstacles, face à nos imprévus, à nos contretemps, à nos problèmes, à nos difficultés, face à la peur qui peut nous paralyser, face à notre peu de foi ou à notre manque de foi, face à la honte qui peut nous hanter, il y a trois choses à faire. Prier, prier, prier. Prions. Seigneur Jésus, merci car dans ta parole, les gens sont tout à fait humains. Et nous te remercions car nous voyons que ces femmes avaient des obstacles et elles ont eu peur. On a vu que Pierre avait certainement honte de ce qu'il a fait. Et aussi, nous voyons l'incrédulité de ses croyants. Et Seigneur, nous te confessons humblement que parfois devant nos obstacles, devant nos difficultés, nous avons peur. Parfois, nous avons honte de ce que nous avons fait dans le passé lointain ou le passé récent. Parfois, nous manquons de foi et on vit dans la peur. Seigneur, nous te prions de nous aider à surmonter les obstacles ou à vivre avec les problèmes que nous avons, si telle est ta volonté. Aide-nous, Seigneur, à te confier nos peurs et nos craintes, nos inquiétudes. Aide-nous aussi, Seigneur, à te confier notre manque de foi. Et comme le papa dans les évangiles, nous croyons. Mais s'il te plaît, viens au secours de notre incrédulité. Merci pour ta parole. Merci pour cette série dans l'évangile de Marc. Et merci car Jésus est vivant. Et il nous accompagne jour après jour. Amen. Amen.